Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
38 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2019 et 26 millions de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale en 2020, selon les chiffres de l'ONU-SIDA. Il existe aujourd'hui un traitement préventif qui permet de se protéger du sida lorsque l'on envisage d'avoir un rapport non protégé. En prenant un comprimé, on supprime le risque de transmission lors du rapport sexuel. La PrEP, donc proxylaxie et pré-exposition, est un traitement médicamenteux qui empêche l'infection par le virus du sida chez des personnes séronégatives.
France, la Direction générale de la Santé estime que la PrEP pourrait éviter entre 1000 et 2500 nouvelles contaminations par an. Peu de personnes le savent, cette émission est destinée à le faire savoir. À qui s'adresse la PrEP en priorité? Comment en bénéficier en France et en Afrique? Qui l'utilise aujourd'hui? Nous en parlons avec nos invités ce matin.
Nous en parlons avec le docteur Romain Palich, qui nous rejoint sur le plateau. Il est membre du service des maladies infectieuses et tropicales et d'oncologie médicale à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci de nous rejoindre, docteur. Nous rejoint également Aminata Sinon, elle est coordinatrice prévention insertion professionnelle au sein de l'association Icambéré, qui se trouve à Saint-Denis. Il nous rejoint au téléphone d'Africa Radio, Nicolas Etienne. Il est chargé de mission à la direction en prévention et promotion de la santé chez Santé publique France. Et avec nous, en duplex d'Abidjan, le docteur Anno Marin est directeur de l'espace médical La Pyramide. Bonjour à tous. Alors, bonjour, docteur Romain Palich. Merci de nous rejoindre. Alors, on l'a dit, la PrEP est un traitement médicamenteux. En quoi est-il différent des autres traitements qui existent aujourd'hui, qui sont proposés aux personnes séropositives? Bonjour.
La PrEP qui effectivement mérite d'être un peu mieux connue en France et un peu partout dans le monde. Alors la première chose pour répondre à votre question, c'est que déjà ça fait partie des traitements qu'on donne aux gens séropositifs. Donc en fait, dans la PrEP, il y a deux molécules antirétrovirales qui sont des molécules qui font partie de l'arsenal thérapeutique qu'on utilise tous les jours pour les gens qui sont infectés. La principale différence, vous l'avez dit également, c'est que c'est un traitement qu'on va donner aux gens séronégatifs. Donc on va donner un traitement antirétroviral, donc, c'est-à-dire un traitement qui est censé fonctionner sur un virus, à quelqu'un qui ne porte pas le virus dans un objectif de prévention. Et l'autre différence, pour rentrer dans les détails, c'est qu'en général, actuellement, même si c'est de moins en moins vrai, les gens séropositifs reçoivent ce qu'on appelle une trithérapie. Ça veut dire une association de trois médicaments qui fonctionnent sur le virus, sur le VIH. Et dans la PrEP, c'est une bithérapie. Donc en fait, c'est l'association de deux molécules qui vont empêcher le virus de se multiplier.
Alors vous dites qu'il s'adresse également aux séropositifs, mais est-ce qu'il est beaucoup plus efficace pour les séronégatifs ou pour les séropositifs, ce traitement de la PrEP?
En fait, la philosophie du traitement est totalement différente. Chez une personne séropositive, il y a du virus qui se multiplie dans le sang quand il n'y a pas de traitement. Et donc l'objectif du traitement, c'est d'empêcher la réplication du virus, la multiplication du virus, et donc ça permet d'empêcher que les gens soient malades à cause de l'infection. Chez les séronégatifs, il n'y a pas de virus, donc en fait c'est vraiment en prévention. On est avant le contact avec le virus et le but c'est que les gens ne s'infectent pas. Ça veut dire que quand on va, par exemple à l'occasion d'un rapport sexuel, rencontrer le virus au cours de ce rapport sexuel, le médicament qui va être dans le sang, dans les muqueuses sexuelles, va empêcher que le virus passe dans le corps et donc que la personne devienne séropositive.
Nicolas Etienne, bonjour. Alors, la PrEP est-elle destinée à remplacer le préservatif et les autres stratégies de prévention du VIH?
Bonjour. Alors, non, la PrEP est un nouvel outil pour se protéger. Il ne remplace pas le préservatif, mais il vient en complément. C'est une option supplémentaire. Par exemple, pour les personnes qui n'utilisent pas ou pas systématiquement le préservatif, ou pour les femmes qui n'arrivent pas à l'imposer à leur partenaire. Par exemple, la PrEP ne protège pas contre les IST, alors que le préservatif, si. C'est donc un choix de plus pour se protéger contre le VIH.
Aminata, la Direction générale de la Santé estime que la PrEP pourrait éviter entre 1000 et 2500 nouvelles contaminations par an. Est-ce que cela veut dire qu'il y a peu de personnes qui suivent ce traitement? Et comme le disait le docteur Palich, il y a une méconnaissance concernant la PrEP aujourd'hui en France notamment?
Bonjour. En fait, il y a plus une méconnaissance de la PrEP en France, parce que lorsque nous rencontrons les personnes quand on fait de la prévention, elles ne sont pas au courant de son existence. Et il y a également la peur de prendre un médicament alors qu'on n'est pas malade. Mmh. Donc, c'est sur ça qu'on devrait travailler pour que les personnes connaissent l'existence et acceptent d'adhérer à la PrEP. Mmh.
Docteur Romain Palich, donc on l'a dit, hein, il s'adresse à la fois aux séropositifs mais aux séronégatifs. Alors, concernant les séronégatifs, à quel public en priorité s'adresse-t-il ?
Oui. Alors, vraiment, il faut que ce soit bien clair. Hein, la PrEP, ce qu'on appelle la PrEP, c'est vraiment pour les séronégatifs. Hein. Mmh. Le traitement antirétroviral, d'une façon générale, c'est pour les séropositifs. C'est pour ça que ça a été imaginé. Évidemment, c'était pour pouvoir soigner des gens qui avaient l'infection. Par contre, vraiment, ce qu'on appelle la PrEP, ça veut dire prophylaxie, pré-exposition, c'est vraiment la prévention. Et donc, c'est vraiment chez des gens séronégatifs.
Mais vous avez dit qu'on pouvait quand même l'utiliser aussi pour des séropositifs.
Oui, parce que en fait, les médicaments qu'on utilise pour la prévention font partie des médicaments qu'on utilise depuis 15 ans ou 20 ans pour les gens séropositifs, parce que c'est un médicament qu'on connaît bien et on sait exactement comment il fonctionne. Et donc, pour revenir à votre question, oui, historiquement, en fait, le constat de Santé publique, c'était de se dire que malgré une information plutôt correcte de la population sur les modes de transmission, et en particulier sur l'utilisation du préservatif pour pouvoir prévenir l'infection, on découvre tous les ans, de façon relativement stable depuis des années, à entre 6 et 7 000 infections par le VIH en France. Mmh. Et c'est pas, enfin, je parle de la France parce que c'est les chiffres de la France, mais évidemment, le constat est un peu le même dans tous les pays. Et donc, l'idée, c'était de se dire, on devrait mettre à disposition un moyen autre que le préservatif pour essayer d'ajouter encore à la prévention. Ce que Nicolas disait également, hein, c'est pas, ça remplace pas, mais ça permet probablement de proposer à des gens qui ont connaissance des modes de transmission un moyen supplémentaire pour essayer de prévenir le VIH. Et donc les populations cibles, en fait, c'est des gens qui s'exposent sexuellement à l'infection, au virus, malgré l'utilisation d'autres moyens comme le préservatif ou l'absence d'utilisation du moyen de prévention. Mmh. Alors, pour vous donner des chiffres, hein, en France, on sait que les initiations de PrEP et le suivi des gens qui sont sous PrEP, ça concerne entre 95 et 98% d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, ce qui est probablement l'une des populations pour lesquelles le traitement a été imaginé au départ. Mais malheureusement, on a beaucoup, beaucoup de mal à toucher d'autres publics qui sont des gens plutôt jeunes, des gens qui sont issus de pays qui ne sont pas la France. Enfin, il y a plein de populations qui s'exposent beaucoup au VIH, qui font partie des populations très à risque pour le VIH, qu'on n'arrive pas à toucher. Et c'est un des gros travaux actuellement en France.
Docteur Romain Palich, y a-t-il des contre-indications médicales à la PrEP ?
Elles sont très rares. C'est un médicament qui peut empêcher un peu le fonctionnement du rein, parfois, dans des situations qui sont très rares. C'est probablement la seule contre-indication, et en pratique clinique, c'est quasiment jamais le cas qu'on ne puisse pas donner la PrEP à cause de ça. Donc non, il n'y a quasiment aucune contre-indication. Les allergies très sévères, on n'en voit quasiment jamais. Et les insuffisances rénales, c'est pareil, c'est excessivement rare.
Nicolas Etienne, comment avoir accès à la PrEP ? Est-ce que c'est facile aujourd'hui, par exemple, je peux aller en pharmacie ou je dois avoir mon médecin tout d'abord ? Comment ça se passe ?
Alors, la première prescription doit se faire dans un centre de dépistage gratuit, à Cégide, ou à l'hôpital, dans un service spécialisé. Vous trouverez toutes les informations sur site d'infoservice. Ensuite, l'ordonnance dure 3 mois. Vous pouvez aller chercher le traitement en pharmacie et pour faire renouveler l'ordonnance, vous pouvez aller voir votre médecin traitant.
Docteur Anno Marin, merci de nous rejoindre. Alors, 2 études réalisées en Afrique en 2020 par l'UNICIDA ont montré l'efficacité de la prophylaxie après exposition, donc PrEP, pour réduire l'incidence du VIH chez les femmes, par exemple au Kenya. Est-ce que cela montre que la PrEP est très utilisée sur le continent africain ?
Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, dire de manière réelle qu'il est utilisé sur tout le continent africain, je ne pourrais pas m'engager à ça, mais je sais qu'il est utilisé en Afrique, dans certains pays, particulièrement dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a des études qui ont été faites grâce à des programmes français, américains, particulièrement dans mon pays, la Côte d'Ivoire, le programme national de lutte contre le sida, qui est une structure du ministère de la Santé, s'attelle à vulgariser l'utilisation de cette méthode. Elle est associée aujourd'hui à la protection maternelle et infantile et puis à l'accident d'exposition au sexe, que ce soit dans le milieu professionnel de la santé ou autre.
Est-ce qu'il y a, comme en parlaient nos invités sur le plateau, une méconnaissance également en Côte d'Ivoire de ce traitement ?
Alors oui, avant l'émission, j'ai interrogé certains confrères, collègues médecins. Aujourd'hui, il n'y a pas une méconnaissance en tant que telle, mais de manière générale, au niveau des professionnels de la santé, certains professionnels n'y s'y connaissent pas trop. Mais par contre, le programme national de lutte contre le sida, comme je disais, dans ses centres de dépistage, dans ses centres de prise en charge, pratique, donc il a une connaissance au niveau de la population, des personnes. Maintenant, le problème, c'est de fréquenter ces centres-là pour pouvoir bénéficier de cette méthode.
Alors justement, est-ce qu'il y a des réticences quant à l'utilisation de ce traitement ?
Alors, déjà, les personnes cibles d'abord. Alors, c'est les personnes, c'est un peu comme ce que mes confrères disaient, des personnes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, des travailleuses du sexe, des usagers de la drogue, des partenaires séronégatifs dans le couple séro différent, et puis d'abord des gens au-delà de 15 ans et puis des adolescents, c'est-à-dire en milieu scolaire. Alors, de manière socioculturelle, est-ce que ces personnes-là sont prêtes à se dévoiler ? C'est ça qui pose problème, c'est ça que je dirais qu'il y a quelques pas de réticence en tant que tel, mais une manière de pouvoir garder ses orientations sexuelles, son comportement de vie, son hygiène de vie.
Retour à Paris, ou en région plutôt à Saint-Denis, Aminata Sinon, vous êtes membre de l'association Ikambere. Selon les derniers chiffres, parmi les 6000 découvertes de séropositivité en France, près d'un tiers concerne des personnes nées en Afrique subsaharienne. Comment vous, au sein de votre association Ikambere, vous sensibilisez les personnes qui viennent vous voir à la PrEP ?
Alors, vous savez déjà que notre public, ce sont des femmes déjà infectées par le VIH. Donc, dont la plupart est indétectable aujourd'hui, qui n'ont pas besoin de la PrEP, donc, puisqu'elles ne peuvent pas transmettre le virus. Elles ne sont pratiquement pas intéressées par ce traitement. C'est parler de la PrEP à son compagnon, c'est de se dévoiler. Pourquoi demander à son compagnon de prendre un traitement contre le virus si on n'a pas parlé de sa séropositivité avec lui ?
Est-ce qu'il y a le cas souvent ?
C'est le cas. Ouais. C'est le cas. Parce que les gens continuent à avoir des idées reçues sur le VIH, ce qui fait que les femmes ne se dévoilent pas.
Est-ce que, justement, vous estimez que les diasporas africaines de France sont suffisamment informées concernant cette PrEP, son objectif et son utilisation ?
Je pense que pas suffisamment, parce que quand on va dans les foyers pour faire la prévention du VIH et l'incitation au dépistage, les résidents ne sont pas au courant. Sur les 14 foyers dans lesquels nous intervenons, il n'y a eu qu'une seule personne qui nous a dit qu'elle avait entendu parler de la PrEP. Donc, elles ne sont pas du tout au courant de l'existence de la PrEP qui pourra vraiment les aider.
Et que faut-il améliorer dans la sensibilisation justement de ces populations, d'après vous ?
Il faudrait mobiliser tous les partenaires qui interviennent auprès des populations migrantes. Ce n'est pas seulement les Africains, mais vraiment les migrants qui les reçoivent, que les médecins ne voient pas. Mobiliser également les médecins traitants, parce que beaucoup de médecins traitants n'en parlent pas, parce que la prise en charge pour eux est compliquée. Ça va multiplier le travail qu'ils ont déjà. Donc, c'est surtout sur ce point qu'il faudrait travailler. Que l'État s'approprie de cet outil de prévention, que l'on puisse faire des campagnes de prévention, d'information sur l'existence de la PrEP, l'accès à la PrEP, et aussi que les médecins, comme le docteur ici présent, essayent de voir avec leurs collègues pour simplifier la prise en charge. Parce que demander à un migrant aujourd'hui de venir tous les 3 mois pour faire son bilan, ce n'est pas possible. Parce qu'il est là déjà pour travailler. Également qu'ils essaient de voir dans leur créneau horaire, mettre des consultations plus tard en fin de journée pour que ces personnes qui sont éligibles à la PrEP puissent venir aux consultations pour une bonne prise en charge.
Romain Palich, le Conseil d'État a refusé que la PrEP soit administrée directement par les médecins, les médecins de ville. Est-ce que c'est une mauvaise décision selon vous ? Est-ce que ça complique tout le travail qui est fait autour de la sensibilisation concernant ce traitement ?
Exactement ce que vous venez de dire sur l'accessibilité et la disponibilité des médecins et des systèmes de soins en général pour pouvoir donner la PrEP. La première chose, c'est que quand même depuis plusieurs années, les médecins généralistes en ville ont le droit de renouveler la PrEP, c'est-à-dire que l'initiation du traitement doit se faire à l'hôpital ou dans un centre de dépistage et de prise en charge des IST, mais le renouvellement peut être fait en ville avec normalement un rendez-vous hospitalier annuel. Ce que nous, d'ailleurs, on essaye d'encourager parce que ça permet effectivement d'avoir accès à des médecins qui ont des disponibilités qui ne sont pas du tout les mêmes et de faciliter les prises en charge et d'augmenter aussi les capacités hospitalières de prise en charge des premières prises en charge PrEP. Sur la décision récente qui a été prise, je suis à titre personnel très déçu parce que effectivement, c'est quelque chose qu'on appelait, nous, pour pouvoir précisément, il y a beaucoup de travaux d'ailleurs qui montrent que ça serait très bénéfique amener à la PrEP des gens qui ne vont pas aller consulter à l'hôpital parce que c'est compliqué d'aller à l'hôpital et qui pourraient probablement être touchés par la ville comme nous on n'est pas capable de le faire. Donc oui, je trouve ça très décevant et à mon sens pas très justifié.
Alors justement, est-ce que les médecins de ville, hein, que ce soit en ville ou dans les milieux un peu plus reculés, sont-ils suffisamment sensibilisés, informés sur ce traitement qu'est la PrEP ?
Alors c'est un autre des problèmes auxquels on a été confrontés, c'est que le renouvellement du traitement, comme je vous l'ai dit, il est autorisé depuis maintenant plusieurs années et on a été confrontés à des gens qui allaient voir leur médecin et le médecin leur répondait « je ne sais même pas ce que c'est en fait ». Donc bien sûr, il y a tout un travail d'information, pas forcément que des gens mais aussi des médecins, de formation. C'est pas très compliqué en fait. Hein. C'est vrai que la manipulation d'un traitement antirétroviral, ça peut faire un peu peur, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça, mais là, en l'occurrence, dans la PrEP, il y a un seul médicament pour le moment. La prise en charge est très protocolisée, très codifiée, donc ce n'est pas un obstacle majeur, mais vous avez tout à fait raison, c'est un des enjeux de tout le travail qu'on doit faire aujourd'hui pour que ce soit diffusé plus facilement.
Nicolas Etienne, peut-être une réaction concernant la décision du Conseil d'État. Comment vous, au sein de Santé publique France, vous allez sensibiliser un peu mieux donc sur l'existence de ce traitement ?
Déjà, concernant la décision, on a été très étonnés, on ne s'attendait pas et on est assez déçus. Apparemment, c'est sur un point juridique que ça a été retoqué et donc ça va être retravaillé. Et ensuite, on travaille avec des associations et des sociétés savantes, comme la Société française de lutte contre le sida, pour toucher les médecins, leur expliquer comment fonctionne la PrEP, comment la prescrire, quel est ce protocole et faciliter la diffusion.
Alors, docteur Romain Palich, actuellement, près de 20 millions de personnes sont traitées par une trithérapie à vie selon l'ONU SIDA. Cela nécessite donc une prise régulière de médicaments afin de limiter la réplication du virus, mais ne permet pas de l'éliminer. Y a-t-il eu des avancées ces dernières années pour améliorer le traitement contre le VIH ?
Alors, il y a eu énormément d'avancées depuis que le traitement VIH existe. Le premier traitement, c'était en 87. Donc ça commence à faire loin et depuis on avait un seul médicament à l'époque. Aujourd'hui on a à notre disposition, en tout cas en France, pour parler de la France, au moins une vingtaine de molécules antirétrovirales différentes et dans le monde entier on a plein de stratégies différentes et de molécules qu'on peut utiliser. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir des traitements qui sont très simples à prendre. Ça se prend d'une manière générale une fois par jour avec un seul comprimé par jour, c'est la règle chez 90-95% des gens aujourd'hui, et avec suffisamment d'options pour pouvoir trouver le traitement qui va être parfaitement adapté aux personnes qui doivent prendre ce traitement et effectivement qui doivent le prendre tout au long de leur vie, puisque actuellement on n'est pas capable d'éliminer parfaitement l'infection. Le traitement contrôle l'infection et permet d'avoir une espérance de vie qui est la même que quelqu'un qui n'aurait pas l'infection en prenant ce traitement toute sa vie, mais on n'est pas capable de l'éliminer Et donc, quand on arrête le traitement, on se retrouve dans la situation de pas avoir de traitement du début.
Docteur Anomarin, quelle est la situation dans votre pays concernant le VIH aujourd'hui ?
Alors, comme le disaient tout de suite les autres, alors, il y a beaucoup de médicaments. Nous avons de bons chiffres, les chiffres actuels qui sont des données de 2019-2020. Alors, les personnes vivant avec le VIH aujourd'hui, c'est estimé en 2019 à 428 000 personnes, avec un taux de prévalence au niveau de la population générale, c'est-à-dire des personnes âgées de 15 à 49 ans, à 2,39%. Donc, c'est-à-dire nous sommes à une prévalence de la population de 0 à 14 ans, autour de 0,30%. Et puis, une moyenne de 12 000 infections, avec un nombre de décès aussi est égal à 12 000. Donc, je dirais que nous sommes passés de plus de 5% en allant vers 10% dans les débuts, où nous sommes autour de 2%.
Aminata, sinon, alors quelle est la situation des personnes qui vivent avec le VIH issues de l'immigration africaine que vous rencontrez ?
Alors, sur le plan médical, elles vont bien. Elles vont relativement bien, surtout celles qui adhèrent au traitement, qui ont un bon suivi. C'est seulement celles qui ont des co-infections qui ont quelques difficultés. Et la COVID n'arrange pas la situation. Oui. Et les primo-arrivantes aussi, pour accéder à un médecin, avoir un rendez-vous, pose problème. Mais la grande difficulté actuelle, c'est sur le plan administratif. Oui. Pour avoir un rendez-vous à la préfecture, c'est impossible. Entre la préfecture et l'OFI, c'est vraiment un parcours de combattant.
C'est-à-dire qu'il faut d'abord régler la situation administrative avant d'aborder la situation médicale,
non, que vous dites ? Non, heureusement. Heureusement qu'il y a les consultations PASS qui permettent aux personnes qui n'ont pas encore un titre de séjour d'avoir accès au traitement. Mais après tout ça, il faudrait bien qu'elles puissent se prendre en charge. Et pour se prendre en charge, il faut être régularisé. Ouais. Et c'est ça qui prend du temps. Après un an sans titre de séjour, il faudrait encore 3-6 mois pour avoir un rendez-vous à l'OFI. D'abord, parce qu'il faut passer par l'OFI.
L'OFI, juste pour nos auditeurs.
L'OFI qui va refaire les examens. C'est une aberration pour moi, je ne sais pas, le docteur Palich dira, qu'une personne envoyée par l'hôpital qui a une attestation de son médecin qui doit repasser par l'OFI, qui doit lui refaire les examens pour savoir que la personne a vraiment séropositive.
Juste Aminata, sinon l'OFI, c'est l'office...
L'office d'immigration.
D'accord.
Refaire les examens pour confirmer ce que le médecin a dit avant de donner son accord à la préfecture pour que la personne ait un titre de séjour qui prendra encore entre 8 et 12 mois.
D'accord. Est-ce que vous rencontrez des personnes qui n'ont pas encore obtenu de titre de séjour et qui sont à court de traitement, par exemple ?
À court de traitement, non. Ouais. Parce qu'on a toujours la possibilité d'alerter les médecins partenaires pour que la personne puisse accéder au traitement. Pour cela, sur ce côté, ça ne pose pas de problème.
Justement, Aminata, sinon, est-ce que ces personnes sont suffisamment informées sur le VIH et est-ce que ces personnes font des tests de dépistage régulièrement et parlent-ils de la maladie aussi avec leurs proches ?
Alors, là, il faut qu'on sépare en deux. Ouais. Pour les personnes qui sont séropositives, il y en a qui sont informées sur le VIH. Pour celles qui ne sont pas informées, nous avons l'éducation thérapeutique à l'association pour les aider à comprendre leur situation. Mais pour les autres que nous rencontrons, les migrants et le grand public, ils sont de plus en plus informés, même si ce n'est pas sur tout ce qui concerne le VIH, mais maintenant, la majorité comprend les modes de transmission du virus. Pour ce qui concerne le dépistage, quand nous faisons le TROD, nous voyons de plus en plus de personnes qui reviennent se faire dépister.
Pour les tests rapides.
Pour les tests rapides du VIH, de plus en plus de migrants reviennent se faire dépister. Tout simplement parce qu'ils sont en situation de précarité et ils prennent des risques. Ils comprennent qu'ils prennent des risques, mais ils disent qu'ils n'ont pas la possibilité. Et quand nous leur parlons de la PrEP, ils ont peur de se faire rapatrier s'ils vont à l'hôpital pour accéder au traitement. Mmh.
Docteur Romain Palisch, Minata Sinon parlait de la Covid-19 qui n'arrange pas les choses. Alors quel est l'impact de la pandémie sur la lutte contre le VIH et vous-même en tant que médecin au sein de l'hôpital Pitié-Salpêtrière par exemple?
Alors il y a il y a un peu deux parties. On s'est beaucoup posé la question au départ de est-ce que chez les gens infectés par le VIH, la Covid allait avoir des effets plus dévastateurs que dans la population générale. Et alors, bon, tous les travaux ne disent pas tout à fait la même chose, mais d'une façon très générale, on a l'impression que quand on prend un traitement et qu'on a un bon système immunitaire, ce qui est le cas de l'immense majorité des gens, il n'y a pas d'impact négatif de la maladie Covid sur les gens infectés par le VIH. En revanche, l'épidémie, d'une façon générale, a déstabilisé complètement les systèmes de soins, la manière dont c'est organisé. Bon, moi, je travaille à la Pitié-Salpêtrière, qui est un des hôpitaux qui a reçu aussi beaucoup de patients infectés par le coronavirus. Et c'est vrai que c'est très compliqué de continuer les activités habituelles quand on doit faire face à un afflux de patients qu'on n'avait pas prévu.
C'est-à-dire que, par exemple, dans votre service, il y aura moins de lits, par exemple, pour les personnes qui sont malades du VIH, on mettra en priorité pour ceux qui sont atteints par la
COVID-19. Par chance, aujourd'hui, la proportion des gens qui ont le VIH, qui occupent les lits d'hospitalisation, elle est infime, parce que les gens vont bien et donc ce ne sont pas des gens hospitalisés. Mais pour donner un exemple très concret, pendant toute la première vague, donc les 2-3 mois à partir de mars de l'année dernière, quand il y a eu beaucoup de cas à l'hôpital, le service avait fermé parce qu'on ne recevait que des gens infectés par la Covid. Et toutes les consultations étaient annulées et passées en téléconsultation. Alors, pour des gens qui ont l'habitude de manipuler des ordinateurs, des systèmes de téléconsultation, ça va. En revanche, pour des gens qui sont soit très désocialisés, soit qui n'ont pas accès aux moyens numériques ou qui ne sont pas à l'aise avec ça, c'est compliqué. Et il est très probable, même si on n'a pas encore pu faire les comptes, entre guillemets, qu'on ait perdu de vue des gens et qu'on ait du mal à raccrocher dans le soin des gens qu'on arrivait à suivre en présentiel, entre guillemets, avant. Donc ça a un impact très clair sur l'épidémie.
Nicolas Etienne, vous souhaitez réagir. Quel est l'impact également, selon vous, du Covid-19 sur la lutte contre le VIH?
Je pense que les mesures sanitaires ont gêné les associations pour faire du dépistage sur le terrain. Donc il y a eu beaucoup moins de dépistage fait l'année dernière. Il y a eu aussi moins de prévention qui a été faite. Et ma crainte, c'est que les fonds et les subventions pour la recherche et pour les associations VIH soient diminuées afin de favoriser la recherche au Covid.
Merci à tous les trois d'avoir participé à notre émission. N'hésitez surtout pas sur Internet, sur le site de SIDA Info Service, par exemple, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la PrEP, traitement de pré-exposition. N'hésitez surtout pas sur Internet, notamment vers Paris sans SIDA. Vous pouvez aussi visiter le site de l'association Icambéré, www.icambéré.com, pour en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup, docteur Romain Palisch. Je rappelle que vous êtes membre du service des maladies infectieuses et tropicales et d'oncologie médicale, l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous, Aminata Sinon, coordinatrice prévention, insertion professionnelle au sein de l'association Icambéré. Merci à vous, Nicolas Etienne, chargé de mission et de la prévention, direction prévention et promotion de la santé à Santé publique France. Merci à vous aussi, docteur Anno Marin, en duplex d'Abidjan. Vous êtes le directeur de l'espace médical La Pyramide. Dans un instant, la suite avec Ambiance Africa qui commence. C'est juste après la pause, bougez pas.